Voilà, nous voulons prendre nos Bibles. Nous allons prendre un personnage de l'Ancien Testament. Donc dans Josué, le livre de Josué dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 2. Le livre de Josué. Josué chapitre 2, le personnage que nous allons voir, c'est Rahab. Rahab. Et bien sûr que le plus souvent elle est appelée Rahab la prostituée, mais si on peut l'appeler de cette manière-là, c'est parce que cet aspect-là de sa vie a été réglé. Hein. Vous savez, quand une chose est réglée, on peut en parler. Et la Rahab, eh bien, nous avons des enseignements pour nous ce matin. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir lire tout le passage. Je vais compter sur vous de la connaître un petit peu, mais on va lire quelques aspects déjà. Donc, les enfants d'Israël se trouvent à la frontière de la terre promise, donc de Canaan. La frontière, c'est le fleuve du Jourdain. Ils sont de l'autre côté du Jourdain, ils n'ont pas traversé le Jourdain encore. Certainement que Josué ne sait même pas comment il va faire, il va traverser ce fleuve. Il ne sait pas comment il va faire passer tout ce peuple. Le dernier grand obstacle qu'ils avaient rencontré, c'était la mer Rouge. Et grâce à Dieu, ils avaient pu traverser. Il y avait la verge de Moïse, qui est devenue la verge de l'Éternel. Mais là, il n'y a plus Moïse. Il n'y a plus la verge de Moïse. Et il se trouve devant un barrage naturel. Et en plus, il nous dit que c'était une époque où les eaux débordaient sur les rives du Jourdain. Hein. C'était une époque où il y avait une abondance d'eau. Le fleuve était au plus large. Il nous dit cela dans le chapitre 3, verset 15. Et là, Josué se trouve là, et qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est une question d'un obstacle majeur. Et c'est une chose de traverser, mais c'est autre chose que d'atterrir en terrain hostile. Hein, c'était un peu comme le débarquement en Normandie, et ces soldats qui étaient parachutés, ben c'était une chose de sauter de l'avion, mais c'est qu'ils descendaient sur un terrain hostile. Hein, et là, Josué a tout ce peuple, les femmes, les enfants, leur bétail, il faut les faire traverser, et puis on va tout de suite... Est-ce qu'on pourra poser le pied? Est-ce qu'on sera bien reçu? Et certainement que je me mets à sa place, moi je serais paniqué, hein, c'est sûr. Mais certainement au moins il pense à ce problème. Et ce que je vois, c'est que Dieu va lui donner cette idée d'envoyer des espions vers Jéricho. L'utilité, ça ne changera rien. Parce que du point de vue militaire, le fait que ces espions se soient allés là-bas, ça n'a rien changé, du point de vue militaire, de stratégie. Mais ce que nous allons voir, c'est que quand ces hommes, ces deux espions arrivent à Jéricho et ils entrent, eh bien, ils vont recevoir une information qui fera toute la différence pour Josué. Donc, lisons un peu chapitre 2, verset 1. Il nous dit, Josué, fils de Nun, ou Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Premier mensonge. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, deuxième mensonge. J'ignore où ils sont allés, troisième mensonge. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Impossible. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à la sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. » Voilà l'information qu'ils avaient besoin d'entendre. Ça me rappelle un peu Gédéon, un peu plus tard, donc dans le livre des juges, Gédéon qui sera là, et puis il y a l'armée des Madian qui est là, qui remplit la vallée, et lui, il se retrouve avec 300 hommes. Et certainement qu'il s'est gratté la tête, à dire comment on va faire. Et Dieu lui dit, écoute, prends quelqu'un, descends, approche-toi d'une tente, et puis écoute. Et il est conduit vers une tente où quelqu'un vient d'avoir un songe et on comprend dans ce songe, eh bien, le gars, on lui donne l'interprétation et il dit, il y a un homme qui s'appelle Gédéon qui va nous tomber dessus et il va tout renverser. Vous savez, ça donne du courage à Gédéon. Mais là, c'est pareil parce que ces deux hommes vont revenir à Josué, ils vont dire, tu sais, c'est pas tellement comment la ville est construite et par où il faudra passer, c'est question qu'il tremble. Tu n'as rien à craindre. Vous savez, la première leçon qu'on tire, c'est que Dieu sait quelles sont les pensées de nos cœurs. Et nous pourrons, extérieurement, on peut paraître assez sûr de nous et savoir, mais il se peut qu'il y ait des situations où on ne sait pas trop quoi faire. Il dit, Dieu le sait. Et Dieu, comme il l'a fait pour Gédéon, il le fera pour Gédéon, il l'a fait pour Josué, c'est que, comme ça, l'information est venue. On a entendu la bonne personne qui a dit, tu sais, Dieu a déjà été de l'avant et il a déjà préparé la situation. Dans ce cas-là, il tremble, dans le cas de Gédéon, il tremblait, mais vous savez, tous les jours, nous avons des situations devant nous. Et si nous plaçons confiance en le Seigneur, nous savons que le Seigneur veut cela, nous pouvons croire que Dieu a été au-devant et il a préparé. Que ce soit une personne dans un bureau qu'il faut rencontrer, que ce soit une démarche pour autre chose, que ce soit un problème, si c'est une préoccupation qu'un enfant de Dieu a et porte dans le cœur, Dieu sait quelle est notre préoccupation et il nous devance. Parfois il nous avertit, on reçoit une information qui nous dit « c'est le bon moment ». Et parfois, c'est par la foi qu'on y va, mais il faut croire que Dieu prépare, Dieu dispose, et nous pouvons avoir confiance dans notre Seigneur pour cela. Ces informations concernant le Dieu d'Israël et toutes ces interventions, hein, c'est la femme Rahab dit, ben, nous avons entendu ce qui s'est passé. Et c'est vieux de 40 ans, hein. C'était peut-être avant sa naissance à elle. Et elle dit, on a entendu comment vous êtes sorti de l'Égypte, on a entendu les récits de ce qui s'est passé là-bas, les miracles, et puis vous avez traversé la mer Rouge, et puis après, et tout votre... On vous suit de loin. On a entendu tout cela. Et croire que Rahab, en tant que prostituée, hein, c'était un lieu de tous les voyageurs, c'était le passage par là, et chacun apportait des informations, donc elle était en premier rang pour les informations qui existaient, que eux propageaient. Et à force d'écouter toutes ces informations et écouter tous ces renseignements sur l'Éternel, le Dieu d'Israël, eh bien, elle était arrivée au point où elle a pu dire, chapitre 2, verset 11, « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. » Elle était arrivée à cette conclusion. Elle a vu l'œuvre de Dieu, elle a vu ses agissements, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas sûr que tous les enfants d'Israël pouvaient dire cela. Hein? Oui, c'est notre Dieu, mais à voir ce qu'ils ont fait voir à Moïse, et c'était pas sûr qu'ils croyaient toujours que l'Éternel était le Dieu dans les cieux et sur la terre. Hein? Sinon, ils n'auraient pas montré leur incrédulité et la roideur de leur coup à chaque fois en résistant. Hein? Parfois, les gens du monde ont un plus grand respect pour Dieu que les enfants de Dieu. Malheureusement. Et là, Rahab, tout en pratiquant la vie qu'elle pratiquait, eh bien, ça n'empêche pas que le cœur de l'homme est là. Hein, c'est, s'il ne faut pas regarder la profession ou la vie que mène une personne pour voir qu'il y a un cœur sensible qui peut entendre la parole de Dieu. Et nous devons nous détourner de personne et négliger personne, parce que ces personnes-là aussi peuvent réfléchir. Je me rappelle une fois, ma femme, je crois que j'étais absent, et ma femme est réveillée au milieu de la nuit par un appel téléphonique, et puis c'est un certain jeune homme que l'on connaissait, elle reconnaît sa voix, mais qui avait certainement un peu consommé plus que du coca. Et ne sachant pas trop quoi lui dire, elle lui a parlé du Seigneur, elle lui a parlé de ces choses. On le connaissait, mais elle dit oui, elle l'appelait par son nom, et puis elle lui a parlé, tu sais. Voilà. Et on aurait pu croire que c'est une perte de temps de lui parler alors qu'il était dans cet état. Mais le lendemain, il a appelé, il s'est excusé, il a dit « Mais j'ai entendu tout ce que vous m'avez dit, hein, je me souviens. » C'est la parole de Dieu pénètre. Hein, donc ne nous détournons pas d'une personne. La parole de Dieu va jusqu'au cœur, quel que soit l'état dans lequel se trouve la personne. Qu'elle soit ivre, qu'elle soit dans la panique, qu'elle soit distraite, peu importe, la parole de Dieu pénètre et nous devons prendre le temps de la citer. Et donc, ces informations étaient arrivées jusqu'à Rahab. Elle avait entendu tout ce que Dieu a fait. Et vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Elle entend parler de ce Dieu, elle entend ce qui est enseigné concernant ce Dieu, elle voit ce qu'il fait, elle voit ce témoignage, et la foi apparaît dans son cœur. Et c'est pas seulement qu'elle entend, parce qu'elle n'était pas la seule qui ait entendu. Finalement, tous les habitants de Jéricho en ont entendu. Sinon, ils n'auraient pas de raison de trembler. Ils avaient tous entendu cela. Mais de tous ces gens-là, eh bien, la seule qui a cru, c'était Rahab. Vous savez, Jacques nous rappelle et nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Le fait de trembler ne prouve rien du tout. Le fait de dire, mais moi je crois en Dieu, mais je le respecte, hein, ça ne change absolument rien. Tous ces habitants de Jéricho, ils avaient entendu, ils croyaient que, ils avaient constaté que Dieu était puissant, ils en tremblaient, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont cru et qu'ils ont été sauvés. Rahab est la seule qui a découvert que Jésus-Christ, que Dieu était réellement Dieu, et elle a placé sa confiance. Et Dieu certainement a su cela et su qu'elle cherchait, et il a conduit ses espions chez elle. Hein, parce que normalement, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire là, chez elle, mais elle cherchait. Et donc, ces espions sont conduits chez elle pour pouvoir la parler. Et tout de suite, elle, reconnaissant, hein, parce qu'elle avait l'habitude de voir les gens, elle pouvait savoir exactement d'où ils venaient. C'est pour ça qu'elle dit, moi, je ne savais pas d'où ils étaient. Et ben, c'est un mensonge, mais elle savait d'où elle venait. Et justement, c'est pour ça qu'elle les a cachés, parce qu'elle voulait en savoir plus. Elle voulait entendre plus. Elle voulait leur parler. Et vous savez ce qu'il nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 25, parce que Jacques, voulant démontrer le fait que la foi, ce n'est pas juste une question de déclaration, mais c'est une question d'œuvre, eh bien, va dans toute la Bible, et quel exemple est-ce qu'il prend ? Rahab. Bien sûr qu'il a parlé d'Abraham, et puis il parle de Rahab. C'est deux cas très contraires. Jacques chapitre 2, verset 25 nous dit « Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ?» Il nous dit « Elle a cru et elle a tout fait pour les sauver et puis elle les a accompagnés. Et ce seul acte-là, eh bien, elle a démontré sa foi. » Et il nous dit qu'elle a été justifiée. Ce n'est pas le fait de démontrer une grande foi et de pouvoir faire un miracle spectaculaire. Elle a fait ce qui était dans ses moyens et elle a démontré sa foi. Dieu a vu et elle a été justifiée et déclarée juste devant Dieu. Qu'elle soit une ancienne prostituée n'a rien à voir. Mais ce qu'elle a fait, elle n'a pas seulement affirmé sa foi, elle a dit, moi, votre Dieu, il est puissant, hein, waouh. Non, elle a dit, mais c'est le seul Dieu et je veux placer ma foi en lui. Et elle l'a démontré. Qu'elle ait menti pour un peu préserver ses hommes pour pouvoir leur parler et qu'elle a raconté des choses. Bon, c'est sûr, vous savez, quel que soit le vice qu'on peut avoir dans notre vie, en général, le mensonge, il accompagne. Et c'est très difficile de pécher longtemps sans qu'il y ait des mensonges qui interviennent. Ça, c'est là tout le temps. Et il n'y a personne qui peut dire « j'ai jamais menti ». Et ce qui montre aussi que là, son ancienne vie, elle est là jusqu'à un certain point. Et puis, elle place confiance dans le Seigneur. Et Dieu va la prendre. Elle va vouloir. C'est un peu, vous savez, si vous connaissez l'histoire de Ruth, c'est Ruth qui, à un certain moment, dit à sa belle-mère, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Et elle prend cet engagement. Et bien, dans un peu, ici, nous avons un peu l'équivalent où cette femme, Rahab, sa vie passée, c'est sa vie passée. Mais elle prend cet engagement, ce Dieu sera mon Dieu. Et vous savez, c'est l'étape où chacun de nous, nous devons, il y a un moment. Ce n'est pas seulement le fait de croire en Dieu ou de croire qu'il y a un Dieu ou de croire ou de se fabriquer un Dieu ou d'essayer de se modeler Dieu selon sa pensée ou d'essayer de choisir chez Dieu ce qui nous plaît. Ce n'est pas une question de cela, c'est une question de tu es et je te reçois pour ce que tu es, comme tu t'es révélé. C'est comme ça que nous aimons être reçus par quelqu'un. Et c'est comme ça que nous devons recevoir Dieu et par la foi. Et cette femme, ce qu'elle était n'est pas un problème, c'est ce qu'on devient. C'est pas d'où je viens, c'est où je vais qui importe. Vous savez, ce qui est extraordinaire, et je l'ai dit tout à l'heure, mais avec Rahab, ce qui nous étonne toujours, c'est qu'elle soit toujours appelée Rahab la prostituée. C'est ce qu'on trouve là dans Jacques, hein, il dit Rahab la prostituée. La prostituée, c'est une manière de l'identifier pour qu'on sache bien de qui il s'agit, Rahab. Mais vous savez, le fait qu'elle soit, qu'on fasse encore de nos jours référence à Rahab la prostituée, ça ne l'abaisse pas. En fait, ça devient un témoignage, parce que c'est une chose de régler. Et en fait, au contraire, ça renforce la capacité de Dieu, le fait qu'il puisse sauver quelqu'un. Je sais combien de fois nous entendons, rencontrons quelqu'un, et puis alors elle donne son témoignage, et puis elle dit, voilà ce que j'étais, voilà où j'étais, dans l'état dans lequel j'étais, voilà ce que je faisais, voilà le cœur que j'avais, voilà les motivations que j'avais, voilà... Actuellement, nous sommes en train, c'est la 100e année de la création de la Maison de la Bible, et le monsieur Hugh Alexander, il a dit, moi, j'étais, mais Dieu m'a changé. Et il est devenu le fondateur de l'action biblique et de la Maison de la Bible, vous savez, quand on en parle, mais ça glorifie Dieu, parce qu'on dit, Dieu a pris quelqu'un qui était comme cela, et il l'a relevé et il l'a transformé. Et c'est une manière, on parle tout le temps des enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. C'est pas valorisant d'avoir été esclave. Mais quand on sait qu'on a été délivré de l'esclavage par Dieu pour devenir son peuple, là, ça devient valorisant. Hein? Et je me rappelle un frère à l'église de Saint-Denis qui avait un gros problème. Et je ne veux pas trop dire, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens de l'église là-bas qui m'entendent, entendent l'enregistrement, mais qui avait gros problème. Et au début, il le couvrait, personne ne le savait. Mais un jour, il a eu la victoire. Et quand il a eu la victoire, un jour, il a pu en parler. Et chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un qui avait le problème similaire, il pouvait s'approcher de lui et dire, écoute, moi j'étais là aussi. Et le Dieu qui m'a délivré de cela peut te délivrer aussi. Et ça devient un témoignage. Donc, vous savez, bien sûr il y a très, très peu de gens qui appellent leur petite fille Rahab, mais c'est un témoignage à ce que Dieu peut faire. Et si vous avez... La foi qu'elle a exercée à Jéricho, non seulement est-ce que ça va la sauver, elle, mais finalement, toute sa famille va être sauvée. Elle dira à ses hommes, souvenez-vous de moi, comment je vous ai bien reçu et comment j'ai pris soin de vous. Et ils lui diront, écoute, prends un fil de cramoisi, mets ça dans la fenêtre, et puis quand nous reviendrons, tous ceux qui sont dans ta maison, de ta famille, seront saufs. Et toute sa famille sera sauvée. Vous savez, je vous ai dit que dans Jacques prend deux exemples, Abraham et Rahab, mais dans le chapitre sur les hommes de foi, nous trouvons encore une fois le nom de Rahab parmi tous ceux qui ont exercé de la foi, de tous ces noms qui ont été relevés de l'Ancien Testament. Rahab fait partie de ceux qui ont eu la foi. Au Hébreux chapitre 11 et le verset 31 nous dit que c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'était un acte de foi que de bien les recevoir. Elle savait que ça pourrait peut-être lui attirer des ennuis par rapport aux habitants de Jéricho, mais elle savait que ça pouvait lui amener le salut par rapport à l'Éternel. Et elle a exercé de la foi, elle a compté sur Dieu, Et là, elle se trouve, bien qu'il continue à l'appeler quand même Rahab la prostituée, mais elle a exercé de la foi. Rahab la prostituée qui exerce la foi, ben Dieu a un grand respect pour elle, plus que quelqu'un qui dit « moi je n'ai jamais rien fait de mal », mais qui ne veut pas croire et qui n'a pas de foi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec celui-là? Tandis que peu importe ce que tu as été, peu importe ce qu'a été le problème, qu'il soit moral, qu'il soit financier, qu'il soit autre, que ce soit l'orgueil, que ce soit la confiance en soi, que ce soit l'égocentrisme, vous savez, c'est des choses qui ne sont pas punies par la loi dans nos pays, hein, d'être égocentrique, mais devant Dieu, c'est un problème. Et il nous dit, si on pouvait mettre Steve l'égocentrique, mais par la foi il a cru, ou Steve l'orgueilleux, il a exercé la foi et Dieu l'a justifié. Et Steve, quel que soit le problème que nous pouvons avoir, eh bien, mais nous pouvons par la foi être délivrés de cela, transformés et vivre autre chose. Et quand il nous dira dans Jacques chapitre 2, quand il fait mention de Rahab, c'est là où il dit que la foi sans les œuvres est morte. Hein, au chapitre 2 et verset 26, c'est qu'il dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Rahab a cru, mais elle a fait. On n'est pas sauvé par les œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la foi est le moyen qui nous permet d'accéder à la foi, à la grâce et d'obtenir le pardon. Mais une fois que nous avons reçu le salut, eh bien maintenant il faut le vivre, il faut les actions et les œuvres qui correspondent. Des millions de personnes se disent chrétiens, mais ce ne sont que des dizaines de milliers qui vraiment vivent cette foi et qui l'exercent, et que les gens du dehors peuvent dire ça c'est un chrétien, ça c'est un vrai chrétien. Et quel est le témoignage que nous avons auprès des gens avec qui nous vivons? Donc là, Rahab, selon l'évaluation de Dieu, elle a eu la foi et elle a été justifiée. Et ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres peuvent penser. Ce qui importe n'est pas si notre nom est inscrit sur un registre dans une église quelque part. Ce qui importe, c'est que Dieu nous reconnaisse comme ayant exercé la foi qui sauve. Dans ce chapitre 2, nous voyons ces deux hommes-là. Je continue la lecture au verset 12, donc Josué chapitre 2, verset 12, il dit « Maintenant je vous prie, jurez par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Il y a des fortes chances que la vie qu'elle menait, c'était un peu pour subvenir aux besoins de la famille, puisque c'est sa première préoccupation là. Il dit au verset 14, « Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille, la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et la fin du verset 21 nous dit, elle n'a pas attendu de les voir réapparaître à l'horizon, elle a attaché le cordon cramoisi à la fenêtre, elle l'a fait tout de suite. Et vous savez, ces deux espions sont là et lui disent, écoute, voilà, ce que nous allons faire, c'est que tu prends ce fil, ce sera un signe qui nous permettra de reconnaître ta maison et comme ça nous pourrons distinguer ta maison de toutes les autres. Bien sûr, les espions ne savaient pas comment on allait prendre la ville. Hein. Surtout, ils ne savaient pas qu'il y aurait une explosion des murailles et qu'elle s'écroulerait. Certainement, ils auraient dit, comment on fait ça maintenant, puisque sa maison est sur la muraille, que la muraille doit tomber. Mais ils ne le savaient pas. Mais vous savez, Dieu a tenu compte. Et le résultat, c'est que certainement qu'il y a juste un petit pan de muraille, il y avait sa maison, qui n'est pas tombé. Tout le reste est tombé, et ça, c'est pas tombé. Et ça, c'est un miracle en soi. Que la muraille soit tombée, c'est une chose, mais qu'un bout de muraille ne tombe pas, hein, essayez de faire ça. Et là, mais Dieu tient compte, ces hommes donnent leur parole, et Dieu dit, ah bon, ben, vous avez dit comme ça. Non, écoute, on va se débrouiller, hein, on va faire. Vous savez, Dieu travaille avec nous, Dieu est capable, Dieu entend, il a entendu ce que ces hommes ont dit et il en tient compte. Et la preuve, c'est qu'au chapitre 6 et au verset 22, maintenant la muraille est tombée, on arrive à Josué chapitre 6, verset 22, Josué dit à ces deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Et les jeunes hommes, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui appartenaient. Ils firent sortir tous ces gens de la famille et les déposèrent hors du camp d'Israël. Voilà, donc il n'y a pas de problème, on les a trouvés, la maison était intacte. Dieu a tout fait. Cette maison où la famille, vous savez, quelque part, cette femme, ça, moi je déduis que la vie de cette femme a changé après le passage de ces deux espions. Parce que quand elle dit à sa famille, elle dit, parce que maintenant les enfants d'Israël sont dehors, hein, vous vous souvenez, vous connaissez l'histoire, ils ont fait le tour pendant une semaine, hein, chaque jour un tour. Donc tout le monde savait qu'ils étaient là, tout le monde savait ce qui allait se passer. Et elle dit à sa famille, elle dit, écoutez, restez dans la maison, hein, sortez pas, restez ici, bougez pas, on sera très bien. Ils l'ont cru. En plus, ils étaient tous là. Parce que vous connaissez l'histoire de Lot. Lui, quand il était à Sodome, il a été dire à ses gendres et sa famille, il leur a dit, écoutez, Dieu va détruire cette ville. Et puis, vous savez ce qu'il nous dit. Il nous dit au chapitre 19 de Genèse, il nous dit, ben, ils sont moqués de lui comme s'il racontait une bêtise. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas sa vie pour soutenir sa parole. Lui, il avait, même s'il était croyant dans son cœur, mais il n'avait pas mené une vie qui lui rende crédible. Tandis que cette femme prostituée, après le départ, elle peut dire à sa famille, elle dit, écoutez, si on reste ici, ils m'ont dit, hein, moi j'ai confiance en Dieu, si on reste dans cette maison, on est sauf. Et ils l'ont écouté, ils étaient tous là. Vous savez, si on veut un témoignage crédible, il faut le vivre. Hein, ce n'est pas seulement en parler. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement du parler, mais c'est du marcher. Et donc, non seulement est-ce qu'elle a pu être sauvée elle-même par sa foi, mais en plus, elle a pu avoir un témoignage auprès de sa famille, et toute sa famille est sauvée. Et lorsque nous lisons à la fin de ce chapitre 6, verset 25, il nous dit « Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, à tous ceux qui lui appartenaient, et elle a habité au milieu d'Israël pendant jusqu'à ce jour, parce qu'elle l'avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. » Et donc, non seulement, il dit « Écoutez, vous êtes sauvés, maintenant écoute, vous êtes vivants, on les quitte, alors partez et bonne chance. » Non, non, ils ont été assimilés au peuple d'Israël. Et assimilé un peu de la même manière que Ruth, tout à l'heure, cet après-midi, on en parlera un petit peu de Ruth, mais comme Ruth, elle a été assimilée dans le peuple, elle a fait partie du peuple d'Israël. Et vous savez, chose extraordinaire, c'est que lorsque vous lisez la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1, il y a des femmes mentionnées. Ce n'était pas la pratique des Juifs de mentionner des femmes lorsqu'ils mentionnaient une généalogie, puisque c'était toujours le père qui était important. Mais il y a des femmes qui sont mentionnées. Il y a une Tamar, et l'histoire de Tamar, ce n'est pas une belle histoire. Et ensuite, vous avez Rahab, au chapitre 5, nous dit dans la généalogie de Matthieu, chapitre 1, verset 5, il nous dit « Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. » Et ça, c'est la troisième femme qui est mentionnée. Et au chapitre 6, il y a la femme d'Uri, donc Bathsheba, qui est mentionnée. Et puis la dernière femme qui est mentionnée, bien sûr, c'est Marie, la mère de Jésus. Ces cinq femmes sont mentionnées. Mais de toutes ces femmes, eh bien, il y a Rahab. Rahab, que nous savons tous, ses origines, elle est tellement assimilée au peuple de Dieu qu'elle est même dans la généalogie du Messie que Dieu promet. Vous savez, il y en a qui vont ils pensent que pour que Jésus, il faut garantir qu'il a une lignée propre et tout. Mais Jésus, vous savez, il ajoute des détails qui ne sont pas nécessaires. Il ajoute, il dit, oui, il y a Tamar dans ma généalogie, et il y a Rahab, la prostituée, et il y a Bathsheba, et il y a Ruth, la Moabite, le peuple maudit. Il dit, oui, moi ça ne me dérange pas que ces gens-là, parce que, et vous savez, et certains vont et se plient en quatre pour essayer de démontrer que même Marie, elle avait une naissance particulière, une immaculée conception, pour qu'elle soit sans péché, afin que Jésus-Christ soit sans péché. Il a dit, non, moi, je n'ai pas besoin, moi. Moi, des prostituées dans la généalogie, du péché, d'adultère, il y en a de partout. Il dit, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ça que je suis sans péché. Jésus-Christ était sans péché parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a fait de lui sans péché, qui était fils de Dieu. C'est parce qu'il est né par le Saint-Esprit et qui a fait une œuvre dans le corps de Marie, et c'est pour cela qu'il est appelé le fils du Très-Haut. Ça n'a rien à faire avec avoir une belle généalogie et une descendance propre, pas du tout. Et donc, et même chez nous, nous ne devons pas nous préoccuper, bon, ce qu'on a eu dans notre passé, ce que nos ancêtres ont pu faire, et de quelles origines ils peuvent être, et ce qu'ils ont pu pratiquer, tout ça. Et alors ? Dieu dit, c'est pas ça. L'œuvre, c'est à partir du moment où tu as cru. Je commence une vie et je commence quelque chose chez toi. Et Rahab, avec son passé, il n'est plus jamais reproché. Il est réglé. Il est mentionné seulement pour rendre gloire à Dieu. Mais elle est dans la lignée de Jésus-Christ. L'intégration est extraordinaire. Pas seulement elle est tolérée parmi les enfants d'Israël. Pas seulement qu'on la laisse exister. On dit, écoute, bonne chance. Non, non, elle rentre carrément dans la lignée importante de David. Elle était une des mères de David le roi, et puis jusqu'à Christ. Et là, nous avons un témoignage extraordinaire de l'œuvre de Dieu. Et en fait, c'est ce qu'il va faire lorsque Jésus-Christ est en train de constituer son épouse. Il nous dit dans Éphésiens chapitre 5, c'est une épouse sans défaut, sans tache, irréprochable qu'il présentera à Dieu. Et bien nous, on se regarde les uns les autres, et puis en plus, je regarde celui qui est dans le miroir, et je me dis, mais alors, je ne sais pas, hein, parce que pour qu'elle soit irréprochable, il faut qu'il n'y ait même pas un défaut. Ça veut dire, si n'importe lequel d'entre nous n'est pas purifié, eh bien, l'épouse de Christ ne sera pas irréprochable et sans tache. Et donc, ça nous donne une idée de l'œuvre de Dieu. Quand il nous prend tel que nous sommes, et il fait son œuvre en nous, il nous purifie, il pardonne le péché, il nous rétablit, et il prépare son peuple. Et cette Rahab, je remercie le Seigneur pour l'histoire de Rahab dans la Bible. Parce que ça a rassuré combien de personnes. Ils se disaient, ah mais moi je suis trop mauvais, moi je suis trop... Non, non, pas question. Ne pensez jamais ça, c'est le diable qui vous dit ça, mais c'est jamais Jésus-Christ. Il dit, peu importe ce que tu as pu faire par le passé, peu importe ce que la réputation que tu peux avoir parmi les hommes même, mais viens à Jésus-Christ. Donne ta vie. Prends cette étape. Fais confiance. Commence à vivre selon sa parole. Commence à vivre pour lui. Démontrer par ta vie de tous les jours cette foi en Jésus-Christ. Et Dieu rentre, il fera entrer, on devient membre de l'épouse de Jésus-Christ qui sera présentée dans la gloire. Aucun acte passé ne sera trop difficile pour Dieu. Christ est mort. Il est mort pour tous et pour tous les péchés. Et il peut sauver parfaitement celui qui vient à lui. Et que le Seigneur soit béni, qu'il peut prendre Rahab. S'il peut prendre Rahab, il peut prendre Steve. Et faire une œuvre à sa gloire. Et quand nous terminons avec ça, eh bien nous disons, Rahab, tu es un témoignage de ce que Dieu peut faire et ce qu'il veut faire. Quelqu'un était prêt à la prendre, la marier. On savait tous qu'elle était la prostituée. Mais quelqu'un en Israël, un jeune homme, mais certains pensent que peut-être c'est l'un des deux espions, hein. Il y en a un des deux qui l'a prise et puis qui a finalement lui a donné une vie nouvelle. Et combien de fois, peut-être, c'est ce qui manque, c'est quelqu'un de parmi les frères ou les sœurs qui voit une personne, quel que soit son état, et qui est prêt à la prendre et l'accompagner jusqu'à Jésus-Christ, et lui donner une nouvelle espérance, un nouvel avenir en Jésus-Christ. Prions. Prendre quelques minutes de silence et chacun puisse méditer et voir en quoi cela le réconforte ou lui donne de l'espérance.